Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu en arrière, survoler l'histoire de la musique classique et de ses différentes périodes, et puis aussi tenter, pour les néophytes, d'avoir un fil conducteur pour comprendre l'évolution de la musique classique dans le temps. Les dates retenues pour cette chronologie sont très schématiques, mais faciles à mémoriser. Ces périodes se chevauchent. Cette présentation que je vais vous faire est très synthétique et elle n'est pas destinée, je le redis encore une fois, à ceux qui ont de bonnes connaissances en musique classique, hein, bien évidemment. On peut dire grossièrement qu'en musique classique, il y a à peu près 6 grandes périodes, c'est-à-dire 8 siècles d'histoire de la musique, 8 siècles quand même. Le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque baroque, l'époque classique, le 19e et le 20e. Alors, la première évocation de la musique se trouve dans les textes sacrés du judaïsme où l'on parle de sitar et de la flûte, à une époque située autour de 3200-3000 avant Jésus-Christ. Mais il est certain que la naissance de la musique comme forme de production organisée du son est bien antérieure et probablement aussi ancienne que l'homme lui-même, mû par le désir d'utiliser la voix ou les instruments fabriqués spécifiquement pour imiter les sons naturels, comme par exemple le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le fracas du tonnerre. Et donc on peut présumer que les toutes premières formes de musique sont nées surtout du rythme, battement des mains et des pieds pour imiter les battements du cœur ou le rythme cadencé des pieds dans la course, celui du galop, bien bref, vous imaginez tout ce que l'on peut entendre au quotidien. Il est donc fort probable de ce fait, et en raison de la relative facilité de leur construction, que les premiers instruments de musique ont été des instruments à percussion, vraisemblablement quelques variétés de tambours. Et parmi les plus anciens instruments retrouvés se trouve en effet un tambour à fente, avec un cylindre creux assorti d'une fente longitudinale sur la surface externe, qui était jouée par percussion avec des baguettes sur la fente elle-même. Alors les plus anciennes et primitives versions retrouvées consistent en un tronc creux, vous voyez que c'est très primitif, sans fente mais appuyé transversalement sur un trou pratiqué dans le sol et sans doute, on imagine, joué par percussion avec les pieds par les musiciens qui étaient juchés sur l'instrument. Alors beaucoup plus tard, on voit apparaître les instruments plus sophistiqués, comme les instruments à vent, la flûte, le cor, et puis à cordes aussi, la lyre, la sitar, dont il existe des témoignages grecs, égyptiens, mésopotamiens, donc antérieurs au Xe siècle avant Jésus-Christ. Alors ces civilisations connaissent déjà les principaux intervalles entre les sons, comme la quinte, le quartet, l'octave, qui sont utilisés comme base de leurs échelles musicales respectives. Nous allons passer maintenant en revue les différentes périodes de l'histoire de la musique. En écoutant les extraits, il faut essayer de ressentir l'atmosphère propre à chaque période pour mieux comprendre son évolution. Tout d'abord, nous allons parler de la musique classique au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge musical n'a pas de frontières bien définies. Hein. Il fait partie d'une période très très longue où cohabitent dans sa phase finale les façons de chanter héritées notamment des églises chrétiennes antiques et des œuvres qui portent en germe tout le développement ultérieur de la musique classique occidentale. Alors la musique savante médiévale est intimement liée à la liturgie chrétienne comme vous pouvez l'imaginer. Et pour désigner la musique religieuse, on emploie en général le terme de musique sacrée. L'autre versant de la musique médiévale est celui de la musique profane, c'est-à-dire celle qui est non sacrée, chansons, musique instrumentale. Et il y a donc d'une part le chant grégorien au IXe siècle, où l'on voit le développement de l'écriture musicale, l'essor de l'art des troubadours, puis des trouvères et autres héritiers, et enfin l'apparition des premières polyphonies. Concernant le chant grégorien, c'est un chant que l'on dit monodique, c'est-à-dire d'une seule voix. Tous chantent la même mélodie. Chaque chant a une couleur déterminée, uniforme, car il est basé sur un mode comme dans la musique indienne. Donc sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, nous allons écouter un chant cistercien, c'est-à-dire un type de chant grégorien, qui s'appelle la messe de l'Assomption, interprétée par le chœur de l'abbaye de Faucombeau. Nous l'écoutons pendant quelques instants.
Alléluia. Alléluia. Fongombo a reçu de Solem la grande tradition du chant grégorien en honneur dans toute la congrégation.
C'est un chant qui a traversé les siècles, dont on ne connaît pas exactement les origines, mais qui a nourri la piété de l'Église pendant toute son histoire. Et le Concile, dans la Constitution sur la liturgie, réaffirme que c'est le chant propre de l'Église. Voyez. Et la Sainte Église a demandé aux bénédictins, très spécialement, de garder justement ces trésors de chant grégorien.
Grâce aux travaux patients des moines de Solem depuis Don Guéranger, la cantilène grégorienne est aujourd'hui redécouverte et remise en honneur. Par son inspiration surnaturelle et par ce parfum de sainteté si douce et aimable que ne peuvent oublier ceux qui ont pris sérieusement contact avec elle, elle excelle à prendre les âmes et à les introduire dans la région bienheureuse où Dieu les attend. À tous égards, elle est un procédé souverainement efficace de formation morale et surnaturelle. Ces lignes ont été écrites par Don Gajard, grand maître de chœur de Solem.
Abordons les premières polyphonies, musique sacrée à plusieurs voix, qui sont une des marques de fabrique de la musique classique occidentale. Ce type de musique est à deux voix et en est l'une des plus anciennes traces écrites. En France, par exemple, nous connaissons bien la polyphonie corse, qui à la base, était un chant de bergers racontant leur vie et qui, par le fait, transmettait une culture. Donc, sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, vous allez entendre un extrait d'une œuvre de polyphonie du XIIe siècle, d'Amine Labia Mea Apiris, Orlando Lassus, par Stéphane Héros. Je suis sûre que vous percevez déjà la différence. Alors, les interprètes doivent faire preuve de science, de goût et d'imagination, vous pensez bien, pour faire revivre la musique de cette époque reculée. La Renaissance va placer peu à peu l'homme au centre des préoccupations artistiques, à la recherche de la sensualité musicale et de l'imitation descriptive de la nature. Alors, certains modèles, comme la chanson bourguignonne, la musique luthérienne et d'autres, vont peu à peu façonner l'esthétique baroque proche. Elle apparaît comme une période de transition lors de laquelle se met en place la tonalité. Et là, on découvrira des polyphonies sacrées, somptueuses et d'une très grande complexité, et puis des œuvres instrumentales profanes, déjà très modernes en soi. Donc la musique instrumentale qui était improvisée auparavant devient semi-écrite, puis écrite à la fin du XVIe siècle, comme par exemple chez les virginalistes anglais, c'est-à-dire les musiciens, vous savez, qui jouent du clavier à cordes pincées, le petit ancêtre là, du clavecin portatif, qu'on a appelé aussi l'épinette, et dont d'ailleurs nous avions parlé dans une autre émission. Hein. Et pendant la Renaissance, donc, le centre de gravité de la musique sacrée se déplace de la France à l'Italie. L'école franco-flamande, qui domine au XVe siècle, cède la prééminence aux écoles romaines et vénitiennes au cours du XVIe siècle. Un des très grands maîtres de l'école franco-flamande fut Josquin des Prés. Il a voyagé en Italie et a composé cette messe en l'honneur du duc de Ferrare, Ercole. Nous l'écouterons tout à l'heure. Hein. On voit donc là, on voit apparaître le luth dans ce morceau et le virginal, deux instruments majeurs de cette époque. Et là, le XVIe siècle voit se produire l'un des événements les plus importants pour la diffusion de la musique. C'est-à-dire, c'est la naissance de l'édition musicale, grâce à qui ? Eh bien, à l'imprimerie, inventée par Gutenberg en 1453, et qui n'a été utilisée à des fins musicales qu'à partir de 1501. Mais cela va permettre de sceller toute la conquête de l'écriture musicale, ainsi que de créer une uniformité au sein de l'Europe tout entière, et ce, à partir de la Renaissance. Alors, je vais vous citer quelques compositeurs de la Renaissance. En école franco-flamande, il y avait Dufay, Josquin, Ockeghem, De Lassus. En école italienne, Gabrielli et Palestrina. En Angleterre, Talis, Beard et Doland. Et en Espagne, Victoria et Cabezón. Voilà, nous avons fait un petit peu le point sur la Renaissance. Et vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Nous allons vous faire entendre maintenant deux extraits de musique de l'époque. La première, c'est donc Josquin des Prés avec le morceau « Missa Hercules Dux Ferrariae » interprété par The Hilliard Ensemble. Et puis le second, vous allez entendre, ça va succéder, William Byrd, « First Pavan and Galliard » interprété par la pianiste Glenn Gould. À tout à l'heure. Un peu. Voilà, vous notez un petit peu le changement quand même et l'évolution dans la musique. Nous passons maintenant à l'époque baroque, c'est-à-dire de 1600 à 1750. L'histoire de la musique occidentale, elle doit énormément à la période baroque. On peut y observer l'apparition de nombreux éléments qui vont donc rester durablement dans les compositions musicales jusqu'à nos jours. Et cette période est marquée par la naissance du premier opéra, l'Orfeo de Claudio Monteverdi, en 1607. La musique part à la recherche de l'expression cette fois-ci, des passions de l'âme humaine dans la musique, chose qui était souvent interdite au Moyen-Âge et à peine initiée à la Renaissance. Enfin, la musique instrumentale va se développer considérablement tout au long du XVIIe siècle pour prendre le pas sur la musique vocale jusqu'alors dominante. Et il faut dire que l'Italie et la France sont les deux moteurs de ces changements esthétiques, et oui. La musique baroque est très expressive, l'harmonie moderne est en place. Les accords changent selon les règles précises autour d'un centre de gravité, on parle de musique tonale. La science du contrepoint est à son apogée, notamment avec le plus grand compositeur de l'époque baroque finissante, c'est-à-dire le grand Jean-Sébastien Bach. L'émancipation de la musique instrumentale est en voie d'achèvement. L'improvisation de l'accompagnement, qui caractérise les musiques vivantes, se pratique encore à l'époque baroque sous le nom de basse continue. Et les musiciens suivent un canevas harmonique écrit au moyen d'une ingénieuse notation. À cette époque naît l'opéra dans les années 1600 à Florence, puis la musique instrumentale avec notamment le fameux Pachelbel, dont nous vous avons aussi déjà parlé. Mais aussi le concerto pour les instruments, le clavecin, l'orgue qui verra naître la musique sacrée, et puis pour finir, le style galant initié par l'Italien Alberti, qui figurera le style classique. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Posons-nous un instant avec le grand Sébastien Bach, et puis la suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur, BWV 1068 Sarabande, connu sous le nom R, interprété par l'un des plus grands violinistes du XIXe siècle, Yehudi Menuhin, et le Bass Festival Orchestra. Thank you. Quelle merveille ce morceau, quelle merveille à ce Jean-Sébastien Bach qui nous fait rêver. Voyez un peu l'évolution quand même, hein, quand on passe de la polyphonie à ça, il n'y a pas photo, hein, ça. Il y a un changement considérable. Donc on va citer quelques compositeurs baroques quand même. En France, il y eut Charpentier, Couperin, Rameau. En Italie, il y eut Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Scarlatti. Et en Allemagne, Handel, Bach, Telemann. Et puis en Angleterre, Purcell. Alors on va aborder maintenant l'époque classique qui se situe entre 1750 et 1800. Cette période classique aura pour tâche de classer, de trier et d'ordonner un énorme héritage musical issu du baroque. L'arrivée d'un nouveau public, une civilisation dite urbaine, policée et bourgeoise, et d'une religiosité moins affirmée et moins tragique, va bousculer l'ordre ancien. Les formes vont simplifier, se clarifier et s'universaliser. Donc certains genres vont exploser, la musique de chambre, la symphonie, l'opéra bouffe, et c'est vraiment l'avènement progressif du musicien en tant qu'artiste, plus qu'en tant qu'artisan, annonçant ainsi le prochain siècle romantique. L'édition musicale et le commerce de la musique se développent. Vienne devient le nouveau centre artistique de l'Europe, avec des compositeurs, tels Haydn, Mozart ou Beethoven. Mais, la transition a été préparée par des compositeurs tels qu'Antonio Vivaldi, George Philipp, Telemann, les fils de Bach, ou ceux que l'on regroupe dans l'école de Mannheim. Naissent ou se développent alors les concertos de solistes, les sonates classiques, les symphonies. Et pendant que d'autres s'effacent, comme les concertos grosso, les suites, il en est de même pour les instruments. Alors le piano supplante le clavecin, et comme le violon, fait oublier la viole. Et oui, il y a une période classique à l'intérieur de la musique classique. Et son plus illustre représentant, devinez qui est-il ? Wolfgang Amadeus Mozart. Sa musique donne une impression de clarté et de simplicité par rapport à l'époque baroque. Parlons donc maintenant de la symphonie. Le discours musical est prononcé par l'orchestre entier, qui ne dialogue plus avec un seul soliste, comme dans le concerto, qui change maintenant. Quant à Mozart, lui, il compose la symphonie numéro 25 à 18 ans. Et oui, 18 ans, ce petit génie. Et la tonalité de sol mineur lui donne une couleur tragique. Alors il faut dire que la grande présence de Wolfgang Amadeus Mozart marque la période classique dans tous les domaines de la musique et constitue le lien entre la musique du XVIIIe siècle, dont les symphonies calmes et sereines de Franz Joseph Haydn, qui reflètent la perfection des normes musicales, et la musique romantique du XIXe siècle. Je vais vous citer quelques compositeurs aussi classiques de cette époque, ça vous permet un petit peu de situer les gens. En Allemagne, il y avait donc les fils de Jean-Sébastien Bach. En Autriche, Haydn, Mozart et en Italie, Boccherini. Ludwig von Beethoven, quant à lui, a un pied dans l'époque classique et un pied dans le XIXe siècle. C'est révolutionnaire. Eh bien, vous êtes sur Couleur FM, qui est aussi révolutionnaire, sur 97.1, et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Donc maintenant, nous allons savourer l'interprétation aérée de l'ensemble baroque d'Amsterdam dirigé par Ton Koopman, qui met en valeur l'art avec lequel Mozart étage les plans sonores dans la symphonie numéro 40 en G mineur K550. Allez, faisons-nous plaisir quelques instants. Quelle légèreté, mon Dieu, allez, vous avez vu un peu cette évolution, on ne peut que la savourer et l'apprécier. Donc maintenant, nous voilà arrivés au 19e siècle, avec l'histoire de la musique romantique. Et oui, ben ça va encore partir encore plus en live, comme on dit, ça va être terrible. C'est une période riche où les compositeurs s'individualisent et artistiquement comme socialement, ils expriment leur sensibilité propre au travers de leurs œuvres. Alors passion, fantastique, étrangeté, démesure caractérisent cette période dite romantique. Les formes s'y libèrent, le langage musical se modifie, aux limites de l'explosion qui aura lieu au siècle suivant. Alors de Beethoven à Wagner, de Berlioz à Debussy et de Rossini à Verdi, de nombreux compositeurs marquent cette période de changement profond qui donne toutes ses bases au paysage musical du XXe siècle. Les années qui vont de 1750 à 1850 constituent le siècle d'or de la musique classique occidentale. Les premières manifestations du romantisme musical apparaissent avec la personnalité de Ludwig van Beethoven. Avec lui, eh bien oui, on assiste là à la naissance de la figure du compositeur artiste opposée à celle qui prévalait précédemment de musicien artisan. Ludwig van Beethoven a porté à son apogée la forme de la symphonie. Il composa aussi beaucoup pour le piano avec l'extraordinaire série des 32 sonates pour piano, les bagatelles et les variations. Dans ce courant, de nombreux autres compositeurs en Europe se révèlent comme des compositeurs d'opéra, notamment en Italie. Et la musique de chambre traduit bien l'intimité des sentiments. La tradition de l'opéra italien continue à exalter le rôle du chant qui, libéré de l'éloquence de l'opéra du XVIIIe siècle, devient un moment lyrique, pure expression de l'âme. Alors au cours du siècle, toutefois, il absorbe progressivement les aspects de l'opéra français, sensible à l'aspect visuel et, à partir de la seconde moitié du siècle, lié à l'esthétisme du naturalisme. Quant à l'orchestre de simple accompagnement du chant, il évolue jusqu'à devenir, chez Puccini, orchestre symphonique. À la fin du XIXe siècle, le langage harmonique évolue à nouveau considérablement, mais dans des directions diverses, en préfigurant l'éclatement de la musique du XXe siècle. Alors le XIXe siècle musical ne s'achève pas en 1900 exactement. Des musiciens majeurs du XXe, comme Richard Strauss ou Rachmaninoff, témoignent de la persistance des esthétiques nées au cours de ce décidément si riche XIXe siècle. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et vous écoutez l'émission Au fil des notes. Faisons-nous plaisir maintenant avec la sonate pour violon et piano numéro 5 de Beethoven, interprété par Eugène Lee au violon et Amber Rennet au piano. Savourez aussi ce moment. Thank you. là, on s'est fait plaisir avec Eugène Lee et Amber Rennet. C'était trop, trop beau. Moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais en tous les cas, j'ai aimé. Donc maintenant, nous allons aborder le XXe siècle, qui est très différent et beaucoup plus difficile d'accès. On peut la partager en deux périodes, cette période du XXe siècle. Lors de la période moderne, les 50 premières années, on assiste à la fin de la musique tonale qui a régné depuis 3 siècles sur la musique occidentale. Alors tout au long du XIXe siècle, beaucoup de compositeurs en ont peu à peu repoussé les limites. On avance plusieurs solutions nouvelles, l'impressionnisme avec Debussy, l'expressionnisme avec Mahler et Schoenberg, puis le dodécaphonisme, Schoenberg, Berg, Webern, les recherches sur les folklores, comme avec Bartok et Stravinsky. Et certains compositeurs, parfois, recherchent de nouvelles inspirations dans des modèles bien plus anciens, donnant naissance ainsi au néoclassicisme avec Ravel, Stravinsky, Prokofiev. Hein, vous connaissez Prokofiev avec Pierre et le Loup. D'autres enfin cherchent des modèles propres, Ives et Varèse. La période la plus proche de nous, contemporaine, est caractérisée par différents courants de l'après-guerre. Alors, les apports de l'électroacoustique, c'est-à-dire la musique concrète, la musique électronique, le computer music comme on dit, et puis l'hyper-sérialisme, et puis ensuite dans les années 60, les essais de musique aléatoire. La musique dite minimaliste. On voit là se profiler une nouvelle simplicité dès les années 70, avec un certain retour à des langages tout de même plus proches de la musique tonale. Mais on parle aussi de musique spectrale, des nouveaux développements de l'électroacoustique et de certains compositeurs dont les recherches sont très personnelles et quasiment inclassables, hein, il faut le dire. Ah, par contre, un des chefs-d'œuvre de la musique moderne, le ballet Le Sacre du Printemps, composé en 1913 par Igor Stravinsky, est lui absolument splendide. Il superpose rythmes et tonalités différentes et il crée une œuvre profondément originale. Le Sacre compte le déroulement d'une cérémonie sacrifielle dans une Russie païenne imaginaire. Alors la musique qualifiée de sauvage par ses détracteurs et puis la chorégraphie de Nijinsky à l'époque scandalisèrent le public parisien lors de la première. Mais bon, lorsque l'on parle tout simplement de Nijinsky, on imagine l'ampleur et la grandeur qu'il a pu donner à ce morceau. Alors, pour terminer cette émission au fil des notes sur Couleur FM 97.1, je vous invite à écouter un extrait du Sacre du Printemps du compositeur Igor Stravinsky, interprété par Pierre Monteux et accompagné par le Boston Symphony Orchestra.
Oh.
Voilà, c'est un peu dur comme musique, hein. Ça vous change de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, qui était quand même relativement léger. Alors j'espère, avec cette émission, avoir permis à ceux qui ne connaissaient pas trop l'histoire de la musique de la comprendre un petit peu mieux. En tous les cas, moi, de faire cette émission, ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses aussi. Et puis bien sûr, il est évident que tout le monde n'apprécie pas cette musique contemporaine, car elle est très très différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre dans nos familles, hein. Pour la plupart, avec les sons qu'on entend dans cette musique du XXe siècle sont quand même des sons que moi je trouve personnellement plus angoissants, plus percutants, plus rudes que ce qu'on a eu à la période romantique, au XIXe, c'est vrai. C'est un profond changement. Mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est intéressant de le connaître. Et puis, pourquoi pas aussi d'apprendre à l'aimer au travers les différentes écoutes que l'on peut avoir. Donc, je vous invite quand même à aller chercher un petit peu sur Internet, à apprendre, à connaître un peu cette musique du XXe siècle qui est pas si loin que nous, hein. On est quand même au 21e siècle, hein, finalement. Ça y est, on est passé au 21e. Donc, je vous laisse reprendre un petit peu toutes ces musiques que vous avez pu entendre. Et puis, je vous retrouve très, très vite pour une prochaine émission. Je vous souhaite un bon moment en notre compagnie. Et puis, à très bientôt sur Couleur FM 97.1, votre radio de proximité, celle que vous aimez et que nous aimons. À bientôt, au revoir.